Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Lucas Lazo, Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi. Réalisé par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Florent Bujon. C'est le dernier épisode de notre série consacrée à l'axe de la résistance proclamé par l'Iran et ses alliés pour contrer Israël et les États-Unis. Mélanie Chalandon parlait lundi avec ses invités de la doctrine de dissuasion de l'Iran, totalement revue à l'aune de l'attaque d'Israël sur le consulat iranien à Damas. Mardi, en quoi le Hezbollah est un pilier de l'axe de la résistance. Hier, nous évoquions le mariage de raison entre le Hamas et Téhéran. Aujourd'hui, les Houthis du Yémen, des alliés intéressés.
Nous avons un devoir religieux, moral et humanitaire envers Gaza. Nous ne sommes pas intimidés par les États-Unis et le reste de l'Occident. Nous, peuple yéménite, sommes prêts à l'affrontement.
Les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, ont mené une opération militaire en mer Rouge qui a abouti à la saisie d'un navire israélien, lequel a été ramené sur la côte yéménite.
Nous faisons partie de l'axe de la résistance qui s'étend de Téhéran à Bagdad, à Damas, à Beyrouth, en Palestine et à Sanaa. Il s'agit d'un seul axe et il existe une coordination et une direction commune pour toutes ces opérations.
Il n'est pas dans tout l'Orient de grande cité qui puisse donner une idée de Sanaa, ni Damas, molle et subtile, noyée dans son verger géant, ni Jérusalem, bloc compact de voûtes, d'arceaux, de ruelles, de haine et d'amour, écrivait Joseph Kessel dans les années 30 dans Fortune Carrée. Sanaa semble issue du sol même, toute posée dans sa forme, sa fierté et sa sobre noblesse. Au milieu de la coupe prodigieuse de pierre et de lave, elle se dresse, isolée du monde et près du ciel. Isolée, la capitale du Yémen, Sanaa ne l'est donc plus, d'après celui qu'on vient d'entendre, le premier ministre du gouvernement houthiste, qui contrôle depuis 10 ans maintenant cette partie occidentale du pays, la plus peuplée et donnant sur la mer Rouge. Abdelaziz Ben Abtour reprend la rhétorique iranienne de l'axe de la résistance et il inclut volontiers son organisation politico-militaire des Houthis dans cette alliance contre Israël et contre les États-Unis. Le 13 avril dernier, quand Téhéran a lancé des missiles sur Israël, les houthistes y sont eux aussi aller de leurs drones depuis leur position à 2400 km au sud de Jérusalem. En fait, dès le 8 octobre dernier, au lendemain du massacre perpétré par le Hamas, les Houthis démontraient leur capacité à perturber le commerce international en mer Rouge en visant spécifiquement les navires liés à Israël et en contraignant les États-Unis et le Royaume-Uni à envoyer des vaisseaux de guerre pour sécuriser la zone. Engagés depuis 10 ans dans une guerre civile sanglante qui a fait plus de 400 000 morts selon l'ONU, comment les Houthis ont-ils pris cette envergure régionale, devenant un maillon essentiel de la chaîne qu'a tendue l'Iran de Téhéran à Khartoum, au Soudan? À quel point dépendent-ils de la République islamique? Quel est leur degré d'autonomie? Comment les houthistes exploitent le contexte régional à des fins de politique intérieure? Nous en parlons ce matin avec notre invité. Bonjour Laurent Bonnefoy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de la péninsule arabique, chargé de recherche au CNRS, au CERI et au Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa, le CEFAS. Alors Laurent Bonnefoy, de tous les acteurs proches de l'Iran dont on parle depuis le début de la semaine, celui des Houthis ou des houthistes au Yémen est le plus récent. Alors pour une fois, commençons par là. Quand le mouvement est véritablement créé comme mouvement politique au Yémen en 2004, est-ce que les liens sont évidents d'emblée entre les fondateurs et Téhéran? Autrement dit, est-ce que c'est l'Iran qui a créé la rébellion houthiste?
Aucunement. Il y a des accusations qui sont agitées très rapidement, en fait, par le gouvernement à l'époque dirigé par Ali Abdallah Saleh, contre un mouvement qui s'appelle au début la jeunesse croyante, qui a émergé dans les années 90 comme un mouvement religieux de renouveau d'une identité qu'on appelle le zaïdisme et qui est spécifique, en fait, au Yémen. Et ce mouvement-là va se structurer en réaction notamment à la politique antiterroriste menée par Ali Abdallah Saleh, Déployant une critique en fait de l'alliance qui est menée le pouvoir yéménite et les États-Unis dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Juste après le 11 septembre 2001. Président Saleh va s'allier aux États-Unis qui le lui demandent puisque Oussama Ben Laden a des racines yéménites, des origines yéménites. Et là, le président Saleh s'y prête d'assez bonne grâce.
Oui, tout à fait, parce que c'est un moyen aussi de renforcer son pouvoir et de bénéficier d'un certain nombre de subsides. Et dans le cadre de cette lutte antiterroriste, plutôt que de s'attaquer, on pourrait dire, à des mouvements sunnites avec lesquels il a été allié pendant longtemps, il va décider de montrer son engagement dans la lutte antiterroriste en s'attaquant à un mouvement qui vont devenir les houthistes et qui sont en quelque sorte des perdants de l'histoire.
Alors, il serait trop réducteur, et vous ne cessez de le dire dans vos travaux, Laurent Bonnefoy, que de considérer la guerre au Yémen et tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, la proximité entre les Houthis et les Iraniens, à la question de la confession, à la question de la religion, puisque le président Abdallah Saleh, yéménite, qui s'est opposé aux Houthis à l'apparition du mouvement, était lui-même zaïdiste. C'est ça, on dit comme ça, zaïdiste.
Zaïdite, oui.
Zaïdite, pardon. C'est une branche du schisme.
Exactement. C'est une branche du schisme. J'expliquais qu'il s'agissait des perdants de l'histoire parce que, en fait, c'est un mouvement, donc, comme je l'ai dit, spécifique au Yémen, donc, qui appartient à la grande famille diverse du schisme et qui a régné sur tout ou partie des hautes terres du Yémen pendant 1000 ans. Autour d'une institution qu'on a appelée l'imama, donc qui était une forme de monarchie, qui était réservée en fait à une catégorie spécifique qu'on appelle les descendants du prophète. Cette institution qui a émergé au 9e siècle au Yémen a été défaite par la République. Pendant 1000 ans, il y a eu ce système qui était une forme de monarchie réservée en fait à une catégorie particulière qui représente, alors les estimations varient, mais on pourrait dire à peu près 10% de la population, une forme de noblesse en fait qui s'accaparait ce pouvoir.
Avec un imam qui est à la fois monarque et chef politique, religieux, militaire, c'est ça l'imama.
Exactement, militaire non, puisqu'il avait établi en fait une relation avec les tribus. Et ce qui caractérise en fait le mouvement houthiste, ce qui caractérise la famille al-Houthi, c'est d'appartenir en fait à cette catégorie des descendants du prophète. Donc, en quelque sorte, ils peuvent prétendre à occuper le poste de roi, de chef politique et religieux du Yémen. Et c'est ainsi que le gouvernement yéménite, en 2004, a accusé les houthistes de vouloir restaurer l'ancien régime. Et il l'a fait aussi en s'appuyant sur la lutte antiterroriste, en prétendant que, notamment, ils étaient alliés à l'Iran, mais surtout qu'ils avaient un agenda anti-américain, anti-israélien et antisémite.
Alors pour bien comprendre, oui, antisémite, anti-israélien, on y reviendra sur cette doctrine sur laquelle se retrouvent les Houthis et l'Iran, peut-être davantage d'ailleurs qu'au niveau confessionnel. Pour bien comprendre, les Houthis, c'est une famille à l'origine, plus qu'un mouvement. C'est pour ça que vous dites parfois les Houthis quand vous parlez de la famille et les Houthistes quand il s'agit de parler des combattants qui se battent au nom de ce mouvement.
Tout à fait. C'est une famille qui a joué un rôle important, notamment donc le fondateur Hussein al-Houthi, qui est le premier chef de guerre au moment de la militarisation et de la politisation du mouvement qui avait été créé dans les années 90, qui s'appelait à l'époque la Jeunesse Croyante. Donc Hussein al-Houthi est un ancien député. Entre 93 et 97, il occupe un poste de député en appartenant à un parti spécifiquement zaïdite qui s'appelle le parti du droit, Al-Haq. Ensuite, il défait lors des élections, il va faire ses études au Soudan et non en Iran, ce qui est un élément intéressant. Et lui-même, Hussein al-Houthi, est le fils d'un grand clerc qui s'appelle Badr ed-Din et le frère de l'actuel leader Abdelmalek al-Houthi.
Lui, il a été tué, Hussein al-Houthi, assez vite après la création du mouvement Houthi par le pouvoir de Salé, du président Salé.
Tout à fait. Il y a une première phase de guerre, en fait, entre 2004 et 2010, se succèdent, alors on a appelé ça des rounds, d'une guerre dans la ville, autour de la ville de Saada, on a appelé ça les guerres de Saada, qui, donc, entre 2004 et à peu près 2010, vont secouer la région, de façon, et rester sous les radars, pourrait-on dire, en dépit du nombre très élevé de victimes et des destructions et des déplacements.
Vous disiez que cet Hussein Alouti a fait ses études au Soudan et non en Iran, et d'ajouter que c'était un élément intéressant, parce qu'en effet, cela montre que assez vite, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il marque une distance avec l'Iran, mais en tout cas, il a fait plusieurs séjours en Iran avec sa famille, et c'est au Soudan qu'il a choisi néanmoins d'étudier. Pourquoi dit-on, sur un plan d'abord religieux, que les Houthis et l'Iran se ressemblent, puisqu'a priori, l'islam zaïdite n'est pas l'islam ou le chiisme iranien ou de tradition iranienne. Mais il va le devenir progressivement.
Tout à fait. Il y a des reconfigurations à l'intérieur de la pratique religieuse qui est donc portée par le mouvement autiste. Notamment, on y viendra peut-être, la question de célébration d'un certain nombre de fêtes typiquement chiites.
Vous pouvez nous le dire. Ashura, par exemple, Ashura, notamment la commémoration de la mort d'Hussein.
Notamment la fête de Ashura qui est très spécifique au chiisme du haut décimain, notamment dans sa dimension liée à des flagellations. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement à la fois décrié par les sunnites, mais aussi très spectaculaire avec des hommes qui se flagellent en étant torse nu et avec des chaînes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été adopté par le mouvement autiste. Mais la célébration de la mort de Hussein, la revitalisation d'une autre célébration qui s'appelle le Radir. Alors, c'est des éléments très, très propres à la relation entre le chiisme et puis le sunnisme. Mais en tout cas, il y a ce rapprochement qui s'effectue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, il y a eu une accusation initiale portée par le gouvernement. Et on pourrait dire, alors, qu'elle a provoqué, qu'elle a accompagné un mouvement d'alliance qui s'est établi de plus en plus fermement, de plus en plus concrètement entre le mouvement autiste, qui, comme je l'ai expliqué, naît d'un contexte proprement yéménite, né de la relation aussi entre le pouvoir yéménite et les États-Unis. Donc l'Iran n'a que peu à voir avec cette dimension-là, d'autant plus qu'à l'époque, le pouvoir yéménite d'Ali Abdallah Saleh est en bons termes avec l'Iran. Mais ça va se concrétiser au fil des années, au fil de la guerre, la première guerre, donc 2004-2010, puis après prendre des formes vraiment concrètes à partir du moment où les autistes vont prendre le contrôle de Sanaa en 2014, et puis 2015. Et ça va être un élément très choquant pour les yéménites aussi, parce que bah justement, les autistes incarnaient les perdants de l'histoire. Et donc, il y a un retournement très surprenant, mais qui montre combien les enjeux identitaires, parfois, nous surprennent, nous, les analystes, et les populations elles-mêmes.
En effet, ils vont commencer à gagner du territoire, et c'est pour ça qu'en 2015, l'Arabie Saoudite intervient pour freiner leur évolution territoriale, au sein d'une grande coalition soutenue d'ailleurs par Washington. Mais avant que ne s'expriment aussi clairement ces dissensions régionales, presque à l'échelle régionale entre les houthistes au Yémen et l'Arabie saoudite sunnite, les divisions sont aussi très locales, parce que ces chiites se battent aussi depuis longtemps contre l'influence wahhabite de l'Arabie saoudite voisine. Et ça, c'est aussi strictement local au départ.
Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement les ancêtres, et y compris Badreddin al-Houthi, en fait, de la famille, avaient eux-mêmes, parce qu'ils soutenaient la monarchie au moment de la révolution, qui a donné lieu à une guerre civile entre 62 et 70. Et à ce moment-là, eh bien, les monarchistes sont soutenus par l'Arabie saoudite, ce qui montre bien qu'il y a une dimension qui n'est pas proprement religieuse. Et puis ensuite, il y a effectivement une phase, à partir des années 80, l'émergence du mouvement salafi au Yémen, soutenu, alors c'est une histoire compliquée, mais on peut résumer en disant qu'ils sont soutenus par par l'Arabie Saoudite. Et l'émergence du principal institut salafi se fait dans le berceau du zaïdisme, la ville de Saada. Et donc, il va y avoir effectivement un certain nombre de tensions. Et c'est ce qui explique, en fait, l'émergence dans les années 90 de ce qu'on a appelé la jeunesse croyante, le mouvement qui va progressivement se politiser, se militariser pour devenir le mouvement houthiste, qui lui-même a un nom aussi qui est assez parlant, évocateur, puisqu'ils se sont renommés Ansar Allah, donc les partisans de Dieu, ce qui renvoie très directement au même type de dénomination que le Hezbollah, le parti de Dieu.
Donc ils se nomment les partisans de Dieu, donc prêtent le flanc, pourrait-on dire, à la critique qui est faite dès le départ par le président Salé de cette question des Houthis qui serait uniquement, et cette guerre au Yémen qui serait uniquement d'ordre confessionnel. C'était donc le discours du président Salé qui les assimilait à un instrument de l'influence iranienne, jusqu'à être quand même allié avec eux en 2014. On ne va pas rentrer dans le détail, je pense que ça complexifie encore une discussion. On va se concentrer sur les liens entre les Houthis et l'Iran, mais c'est vrai que le président Salé, l'ancien président, se s'allie avec les Houthis en 2014, donc 2 ans après sa démission, pour leur faire bénéficier de ses réseaux, de ses soutiens dans la guerre contre le pouvoir yéménite en exil et contre l'Arabie Saoudite, qui mène donc une guerre contre les Houthis à partir de 2015.
Les milices houthistes et leurs alliés, l'ex-président Salé, se sont décidés, avec le soutien de l'Iran, à déstabiliser le Yémen et à brouiller les cartes. Nous ne sommes pas des battants de guerre, mais dès qu'on bat les tambours de la guerre, nous sommes prêts. La campagne Tempête décisive se poursuivra jusqu'à la réalisation de ses objectifs et jusqu'à ce que le Yémen redevienne un pays sûr, stable et unifié.
Donc en 2015, le ministre des Affaires étrangères saoudien Al-Faisal dénonce déjà les liens à l'époque entre l'Iran et les houthistes qu'il combat au Yémen. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette guerre-là et l'arrivée en 2015 de l'Arabie Saoudite sur la scène yéménite avec des bombardements massifs qui tueront des dizaines de milliers de personnes, est-ce que c'est cette intervention saoudienne, Laurent Bonnefoy, qui va favoriser le rapprochement entre les houthis et l'Iran, ou c'était un rapprochement qui était déjà très fort?
C'était déjà entamé, déjà en cours. Ça s'était opéré au fil des guerres. Et puis il y a un certain nombre, enfin des guerres entre 2004 et 2010. Et puis il y a des éléments qui sont assez révélateurs. Par exemple, au moment où les houthistes prennent le contrôle de la capitale en septembre 2014, et donc ils prennent le contrôle aussi de l'aéroport, et ils établissent une ligne directe quotidienne entre Sanaa et Téhéran. Ce qui a pu être utilisé à ce moment-là comme un moyen pour faire venir non seulement des armes, mais également des financements, également des formateurs.
Parce que c'est une liaison qui n'existait pas. Elle a été mise en place vraiment en 2014.
Ça existait avant, mais ça avait été interrompu du fait de la situation politique au moment de la révolution de 2011-2012. Cette mise en avant et cet accroissement des relations a tout de même pris une forme très très concrète. Mais ce qui est intéressant, c'est que on constate que les houthistes, pendant toute cette époque-là et jusqu'à très récemment en fait, ont toujours mis en avant le fait qu'ils s'inscrivaient bien davantage dans un registre nationaliste proprement yéménite. Alors certes, il y avait des proximités. On avait vu, par exemple, au moment de la guerre en Syrie, de soutien qui apparaissait peut-être contre nature dans la mesure où les houthistes avaient participé au soulèvement au Yémen, mais un soutien à Bachar al-Assad.
C'est vrai qu'au Yémen, ils participent de la révolution populaire des printemps arabes, et en Syrie, contre le printemps arabe en Syrie, ils soutiennent plutôt Bachar al-Assad.
Exactement, il y avait un alignement de ce type-là, mais en tout cas, il y avait, je dirais, un souci de la part du leadership, y compris dans l'organisation des manifestations, par exemple, de présentation du mouvement yéménite comme étant celui qui incarne la défense de la nation. La défense de la nation contre les États-Unis, contre l'Arabie Saoudite, que eux-mêmes décrivent comme finalement la tête de pont de l'alliance américano-sioniste, disent-ils, et eux-mêmes donc se présentent comme incarnant cette défense de la nation contre ce qu'ils désignent comme une agression.
Contre les États-Unis, contre l'Arabie Saoudite et contre Israël. Parmi les éléments de leur devise, il y a mort à Israël. Alors pas seulement contre Israël, mais contre les Juifs, puisqu'ils disent aussi malédiction sur les Juifs. C'est un mouvement, Laurent Bonnefoy, qui est fondamentalement antisémite.
Alors c'est un enjeu qui est assez compliqué et puis là
d'ailleurs j'enlève le point d'interrogation, c'est un mouvement fondamentalement antisémite manifestement.
Bien évidemment il y a cet usage là. Il y a eu à un moment dans les années 2000 le cas d'un assassinat de juifs qui a été attribué aux autistes. En tout cas il s'est joué quelque chose à cette époque là de disparition en fait d'une communauté juive millénaire, qui était extrêmement petite, hein, mais on peut raisonnablement penser que la guerre menée contre les autistes et menée par les autistes a contribué à faire disparaître cette communauté juive yéménite, y compris jusqu'à récemment, parce que Ali Abdallah Saleh, en sentant bien qu'il s'agissait là aussi d'un moyen pour s'attirer les faveurs de la communauté internationale, avait récupéré et accueilli les communautés juives du Nord, donc des régions de Saada, à Sanaa, et mis en avant justement ce bon accueil. Et puis la prise de pouvoir par les autistes de Sanaa a conduit justement à l'expulsion, le départ de ces communautés. Donc il y a une vraie dimension effectivement antisémite, mais qui aujourd'hui ne fait guère plus sens par rapport à la dimension anti-israélienne, dans la mesure où il n'y a pas d'interaction entre la population yéménite et les populations juives, puisque la communauté a disparu. C'est bien ce discours anti-israélien qui est retenu, y compris à leur crédit, par la population yéménite, dans la mesure où s'il y a un élément qui est très largement partagé par la population, c'est ce soutien à Israël qui charrie des tas de symboles et également une forme d'unanimité pour ce qui concerne le Hamas, qui a des liens anciens, non seulement avec les autistes, mais également avec le pouvoir d'Ali Abdallah Saleh. Là, il y a une forme de consensus interne en faveur du Hamas et de la cause palestinienne.
On parle d'éducateurs, de stratégistes et du Hezbollah et de l'Iran supervisant les outils, les formant, les aidant à s'armer. Qu'est-ce qu'on sait précisément sur la façon dont l'Iran et ses mouvements pro-iraniens de la région ont aidé les houthistes à s'équiper ?
Alors, on sait assez peu de choses, finalement. C'est-à-dire que, dès 2004, il y a des accusations. Assez rapidement, au fil des différents rounds de guerre pendant la décennie 2000, on a des bateaux qui sont saisis par l'armée yéménite ou par les États-Unis qui patrouillent dans la région.
En 2009, c'est un bateau civil, l'équipage est iranien, il transporte des milliers de munitions anti-char et l'armée yéménite le saisit et commence à...
Tout à fait, mais ça reste des choses qui sont bien en deçà en termes, je dirais, qualitatifs de ce que les houthistes vont réellement développer. C'est-à-dire que au fil des guerres, et y compris donc à partir de 2015, eh bien, il y a une capacité de projection de la violence par-delà les frontières des houthistes qui va s'affiner à travers des drones, à travers des missiles sol-sol, qui montre qu'il y a un savoir-faire. Alors, savoir d'où vient ce savoir-faire, je pense que des spécialistes en armement s'accordent à dire qu'il y a une similitude entre l'armement iranien et l'armement porté par les houthistes, mais simplement par quels canaux ça passe. Et quand on voit, comme je le disais, ce qui a été saisi, ça reste en général assez peu crédible.
Ce qui a été saisi, c'est-à-dire par
la coalition.
Qu'il y a des enquêteurs.
Et puis, à aucun moment, il n'y a eu non plus d'arrestation ou d'élimination de formateurs, qu'ils soient libanais ou bien iraniens. Et y compris en 2020, il y a eu la coalition saoudienne qui a diffusé une vidéo pour présenter justement des formateurs iraniens. Et manque de peau, c'était quelque chose qui avait été filmé plus de 15 ans auparavant en Irak.
Alors, il se trouve trouve que, en effet, les Houthis semblent disposer d'un grand, grand stock de missiles, de drones, de ceux qu'ils envoient, en particulier depuis le lendemain du massacre du 7 octobre par le Hamas en Israël. Ces Houthis qui donc lancent tous les jours, quotidiennement, en mer Rouge, des missiles, des drones sur les cargos qui transitent par là, mais ils les choisissent pas tellement au hasard.
Nous ferons face à l'agression américaine. Les agressions américaines ne resteront jamais sans réponse. Nous sommes plus que déterminés à continuer à cibler les navires liés à Israël et nous ne reculerons pas. À tous les pays, comme la Chine ou les pays européens à l'ouest, nous annonçons ceci. Il n'y a aucun problème pour vous à emprunter le détroit et traverser la mer Rouge. Nos seules cibles, nos cibles exclusives, sont les navires liés à Israël.
Cibler uniquement les cargos liés à Israël et depuis plus récemment les cargos également liés aux États-Unis et au Royaume-Uni qui ont riposté et qui ont posté des navires de guerre pour surveiller la zone. Est-ce que les houthistes en ont les moyens, Laurent Bonnefoy? Comment font-ils? Comment se sont-ils donné les moyens pour véritablement faire ce qu'ils disent, c'est-à-dire ne cibler que ceux qui, les protagonistes en fait de la guerre à Gaza aujourd'hui?
C'est effectivement une marque de savoir-faire indéniable, hein, un savoir-faire qui s'incarne également dans la gestion de l'État et qui est souvent mis à leur crédit, c'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'organisation, la gestion houthiste d'un gros tiers du territoire et à peu près la moitié de la population n'a pas à pâlir face à ses concurrents qui apparaissent comme étant moins bien organisés. Et donc là, on a un savoir-faire militaire qui s'exprime. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de renseignement sur les navires. Il apparaît probable qu'il s'appuie également sur le savoir-faire iranien, donc un échange d'informations, d'autant plus que les Iraniens ont dépêché à l'automne en mer Rouge un navire qui apparaît comme étant une base de renseignement pour cibler les navires. Alors ils le font pas de façon parfaite, évidemment, puisqu'il y a eu des navires, on pourrait dire, qui ont été ciblés et qui sont apparus comme des cibles non intentionnelles, notamment chinois, mais il y a malgré tout une volonté de rationaliser leur démarche, et elle est encore une fois portée à leur crédit aussi, puisque elle fait d'une certaine manière pâlir la position des autres États de la région et des concurrents des concurrents des houthistes, qui certes peuvent avoir des discours de soutien à Gaza ou à la cause palestinienne, mais comme le pense la rue en général, ne font rien. Et là, les houthistes disent ce qu'ils font, s'en donnent les moyens.
Disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Puisqu'en l'occurrence, ils qualifient leurs interventions comme indispensables pour endiguer un risque de génocide, par ailleurs reconnu et établi par une instance de droit international. C'est le discours qu'ils emploient pour justifier aujourd'hui leurs attaques.
Tout à fait, c'est intéressant d'écouter réellement le discours et de le prendre au sérieux. Ça n'efface pas un certain nombre de dimensions internes, la brutalité du pouvoir, mais ça permet de mieux comprendre en fait aussi l'attrait et la capacité, comme je l'ai dit, qui était surprenante, la revanche de perdant de l'histoire à s'ancrer localement, donc dans l'État yéménite, à tenir des institutions, à s'allier avec des militaires aussi, et puis aussi à développer une capacité régionale qui, malgré tout, est assez impressionnante, puisque ils tiennent tête. Il y a eu hier une attaque. Ça faisait plusieurs jours qu'il n'y avait rien eu. Tant et si bien que certains pensaient que peut-être le stock de d'armement s'épuisait. Mais le dernier discours la semaine dernière de Abdelmalek El-Houthi montre que
le premier ministre houthiste,
le leader des Houthis, ils sont disposés à poursuivre une forme d'escalade.
Et les États-Unis d'ailleurs ont stoppé ou détruit cette nuit même 4 nouveaux missiles ou drones houthistes qui se dirigeaient vers la mer Rouge. Alors comment mesurer le degré d'inféodation à Téhéran? C'est-à-dire aujourd'hui, quand les houthistes visent ces cargos, dans quelle mesure peut-on imaginer que ordre leur est donné par l'Iran?
Alors oui, c'est une affaire qui est compliquée. Alors moi, mon tropisme me conduit à me concentrer sur les dimensions politiques internes liées à l'histoire. Toujours est-il que on a bien une grande tendance que j'ai essayé de souligner depuis 2004, qui est une intégration de plus en plus évidente dans les structures d'influence et de nuisance de la République islamique d'Iran. Tant et si bien que la référence qui a été dans le son là, du Premier ministre Ben Abtour qui mentionnait l'axe de résistance, c'est une des premières mentions en fait, y compris dans un discours d'Abdelmalek El-Houthi, donc le grand leader du mouvement, dès le 10 octobre en fait, qui mentionne cet axe de résistance. C'était là la première fois.
Jusqu'à présent, il ne s'inscrivait pas dans cet axe de résistance tel que formulé et construit par l'Iran.
Effectivement.
Il restait assez indépendant de ça.
Effectivement, et quand il y avait des accusations, notamment concernant l'armement, eh bien, les leaders houthistes insistaient sur le fait qu'ils bénéficiaient peut-être d'armes iraniennes, mais ils étaient prêts à en acheter à tout autre pays qui en vendait. Donc il y avait une volonté de mettre à distance, effectivement, par un certain nombre de formules. Ça n'a pas occasionné de tension, hein. Il faut être clair. Il n'y a jamais eu l'expression de la part des houthistes d'une condamnation d'une politique menée par la République islamique. Il n'y a pas eu non plus, y compris pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, une volonté de soutenir la population. Bien au contraire, les houthistes se sont servis de ce moment-là pour resserrer les vis sur le plan des mœurs à l'intérieur de Sanaa, y compris en imposant la présence d'un homme pour les déplacements de femmes. Donc c'est un mouvement qui...
Mais par conviction ou pour faire plaisir, entre guillemets, au mollah du régime iranien?
Moi, je le perçois plutôt comme conviction, parce que bon, la société yéménite est une société extrêmement conservatrice, donc il n'y a pas de dimension qui viendrait montrer qu'elle est sur la mauvaise pente, pourrait-on dire, du point de vue des dirigeants iraniens. Mais en tout cas, c'est bien cette matérialisation de la relation à laquelle on assiste et qui nous interroge. Tant et si bien qu'on se dit que la démarche actuelle liée aussi à des négociations de paix que les houthistes ont lancées avec l'Arabie Saoudite à partir de 2022, dans la mesure où les Saoudiens souhaitaient se retirer du conflit parce que ils étaient dans l'incapacité de gagner.
Ça commençait à leur coûter cher alors qu'ils avaient beaucoup plus de moyens à l'origine.
Tout à fait. Dans ce cadre-là, la relation avec l'Iran peut devenir effectivement gênante. Et il y a bien un agenda proprement yéménite lié à la reconstruction, lié aussi à la capacité des houthistes à perdurer dans le jeu politique.
Et quand aujourd'hui les houthistes restent comme des vigies sur des cargos en mer Rouge, pour vérifier que tout ce qui est cargo ou navire lié à Israël, aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne n'iront pas beaucoup plus loin. Ils disent que ce n'est pas pour servir l'Iran ou en aide à l'Iran, mais que c'est vraiment pour soutenir la cause palestinienne, comme ce jeune influenceur qui cultive une ressemblance avec un certain acteur français puisqu'il se prénomme Tim Houthi Chalumet.
Lorsque j'ai commencé à utiliser TikTok, j'ai posté des vidéos du navire qui avait été saisi par les Yéménites. En 4 jours, la vidéo a été vue des millions de fois et j'ai atteint les 40 000 abonnés. Après ça, le compte a été banni par TikTok, puis définitivement supprimé. Je suis heureux d'avoir gagné en popularité afin de pouvoir transmettre un message de soutien aux Palestiniens et pour défendre la Palestine.
Bon, je dois être un petit peu trop attachée à la paix puisque j'ai appelé ce Timothée Chalamet, Chalumet. Il n'est pas français, mais franco-américain. Bref, Laurent Bonnefoy, en tout cas, c'est aujourd'hui l'action que mènent les outils en mer Rouge leur sert aussi dans cette volonté d'apparaître comme un mouvement légitime et respectable, mais auprès de qui? C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure que la population yéménite, la société yéménite soutient aujourd'hui la société palestinienne, peut-être davantage que leurs dirigeants aujourd'hui. En tout cas, auprès de qui ont-ils gagné en légitimité depuis qu'ils disent ouvertement qu'ils soutiennent les Gazaouis à Gaza, qu'ils interviennent pour endiguer un risque de génocide reconnu et établi par la Cour internationale de justice qui ordonnait en janvier à Israël d'empêcher un génocide à Gaza?
Alors il y a deux niveaux. Il y a le niveau interne, effectivement auprès des populations qu'ils contrôlent. Je pense que ça s'est porté effectivement à leur crédit en termes de diplomatie. Ensuite, il y a dans les zones yéménites qu'ils ne contrôlent pas, la possibilité de mettre leurs rivaux et leurs ennemis dans l'embarras. Et puis il y a l'échelle régionale parce que les houthistes sont la cible de cette coalition établie en 2015. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui vise à leur faire quitter les postes de commandement dans la capitale, mais en apparaissant comme un acteur régional sur lequel il faut compter, je dirais, il se légitime aussi. Et on a vu effectivement des mouvements de sympathie de la part d'acteurs religieux ou politiques dans le Golfe.
Notamment la part du sultanat d'Oman, que vous connaissez bien aussi, Laurent Bonnefoy.
Effectivement, de certaines figures en Oman qui ont salué en fait, la capacité des houthistes à effectivement bien faire ce que beaucoup de citoyens dans cette région-là souhaiteraient voir leurs propres États menés.
En tout cas, déjà pendant la seconde intifada, il y avait eu au Yémen des mobilisations considérables en soutien au peuple palestinien. Est-ce que les houthistes qui sont loin de maîtriser, de contrôler tout le territoire yéménite, qui contrôlent vraiment la partie occidentale du pays qui donne sur la mer Rouge aujourd'hui, est-ce que là-dessus, ils peuvent aussi obtenir l'assentiment, le consentement des populations yéménites hors des zones qu'ils contrôlent?
Oui, un soutien au moins symbolique. Donc ça atténue peut-être un certain nombre de tensions. Après, cette question palestinienne est évidemment insuffisante pour amener un alignement qui serait total.
أشيل قوة جسمي قلبي المكسور
Maria Ouattani, des sœurs israéliennes d'origine yéménite, Eywa. C'est l'ouverture de leur album Baiti Firasi, qui veut dire la maison dans ma tête, sorti en 2019. Vous nous disiez tout à l'heure, Laurent Bonnefoy, qu'il n'y avait, pour ainsi dire, plus de communauté juive au Yémen. En revanche, il y a des yéménites en Israël.
Une population d'origine yéménite. Et ce qui est intéressant avec ce groupe, c'est que il vient d'une certaine manière préserver et diffuser à l'international un patrimoine qui est authentiquement yéménite, qui est pas perçu comme étant strictement juif, et qui a pu ensuite être redécouvert et générer de la fierté, y compris dans les zones contrôlées par les houthistes.
Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur l'Iran et ses alliés. Aujourd'hui, les houthistes du Yémen avec notre invité Laurent Bonnefoy. Les houthistes qui ont leur stratégie propre, mais sont essentiels à l'Iran pour leur position stratégique sur la mer Rouge, comme l'est sur l'autre rive, le Soudan.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans la guerre que se livrent depuis un an au Soudan, le général Al-Bourhan et le général Daglo Dihemeti, et dont nous parlions vendredi d'ailleurs dans Culture Monde, l'Iran a pris parti pour le premier et donc pour l'armée régulière. Pourtant, les relations entre Téhéran et Khartoum s'étaient passablement distendues quand le Soudan a ouvert la voie en 2020 à une normalisation de ses relations avec Israël en signant les accords d'Abraham. Il est 5h41 à Toronto où vous êtes, Pierre Palavi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes professeur au Collège des Forces Armées Canadiennes. D'abord, quand on dit que l'Iran soutient les forces armées soudanaises, les FAS du général Al-Bourhan, de quoi parle-t-on? De quel soutien s'agit-il?
Alors pour le moment, c'est un soutien relativement anecdotique quand on pense à ce qui se passe au Proche-Orient. Les témoins sur place, les différents protagonistes, mais aussi les observateurs occidentaux, parlent de livraison de drones, les fameux drones Shahid 136, qui sont devenus célèbres parce qu'ils sont utilisés par les troupes russes sur le théâtre ukrainien. Il semblerait que les Iraniens livrent quelques-uns de ces appareils, ainsi que d'autres modèles plus petits qui servent aux forces armées soudanaises et au général Al-Bourhan à un peu ralentir leur série de défaites accumulées au cours de la dernière année.
Vous mettez du conditionnel, vous dites il semble que, parce qu'en effet ce sont des suppositions, il n'y a rien d'établi, de réellement prouvé, mais des témoignages sur le terrain qui semble le confirmer. C'est toujours difficile de le dire avec beaucoup de certitude. Quand la guerre s'est déclenchée il y a un an au Soudan, Pierre Palavi, en avril 2023, l'Iran et le Soudan étaient officiellement fâchés. Ils avaient rompu leurs relations diplomatiques en 2016 et ça ne s'était pas arrangé depuis, puisque le Soudan avait signé les accords d'Abraham avec Israël en 2020. Alors comment se fait-il que quand la guerre éclate, les forces armées soudanaises bénéficient tout de suite, me semble-t-il, d'un soutien iranien?
Alors il faut préciser que ces liens entre l'Iran, entre la force Al-Quds, le corps des gardiens de la révolution et les forces soudanaises n'ont jamais été totalement rompues. Officiellement, comme vous le soulignez, le Soudan a été signataire des accords d'Abraham, a adopté sur la scène internationale une position plutôt pro-israélienne. Il y a eu un réchauffement des relations dans les faits, sous le manteau, et ça c'est très caractéristique du mode opératoire iranien. Les Iraniens ont continué à entretenir des relations avec les forces du général Al-Bourhan.
Sous les radars.
Sous les radars, et ça c'est vraiment le style et l'approche iranienne, c'est de contourner les sanctions internationales, contourner les interdits pour agir et pour étendre son influence de l'autre côté de la mer Rouge, comme vous le précisiez.
Et les relations s'étaient néanmoins, alors officiellement, beaucoup dégradées dans les années 2010, avant même qu'Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989, le quitte, ce pouvoir. Qu'est-ce qui a contribué à éloigner les deux pays, deux États qui s'entendaient plutôt très bien depuis les années 90? On remonte progressivement le temps pour comprendre tout ça.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont convergé pour mettre fin à la lune de miel entre l'Iran et le Soudan, qui travaillaient ensemble de manière significative depuis les années 90, surtout à partir de 2005. Donc, plusieurs facteurs. D'abord, la prise de position saoudienne contre l'Iran. Les Saoudiens se sont rendus compte que les Iraniens avaient profité du printemps arabe pour étendre leurs tentacules au Moyen-Orient et au-delà, dans la Corne de l'Afrique notamment, et ça ne faisait pas leur affaire. Ils ont commencé à mettre en place une politique systématique d'isolement diplomatique et stratégique de Téhéran. Ça, c'est un premier facteur. Israël a commencé également à coopérer de facto avec l'Arabie Saoudite dans le même sens. Et puis, un élément tournant, c'est l'élection de Donald Trump en 2016 et l'adoption de la stratégie dite de pression maximale contre la République islamique iranienne. À partir de là, Riyad, Washington et Israël se sont mis à travailler ensemble pour mettre l'Iran en quarantaine. Le Soudan est donc rentré aux côtés de l'Arabie Saoudite et des pétromonarchies du Golfe dans l'espèce de coalition du Conseil de coopération du Golfe contre les Houthis.
C'était pas du tout une évidence d'ailleurs pour le Soudan d'Omar el-Béchir de s'allier ainsi à Washington avec les États-Unis, puisque le Soudan a lui-même été victime de bombardements américains. En 98, l'usine pharmaceutique Shifa à Bari, juste à côté de Khartoum, en représailles à l'époque aux attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Le Soudan n'était pas du tout un allié de Washington et là-dessus, dans les années 90, il se retrouvait avec l'Iran. Ils ont été très alliés dans les années 90.
Oui, ils ont travaillé ensemble. L'Iran sort, alors à la toute fin des années 80, l'Iran sort donc exsangue de la guerre Iran-Irak. Le pays est isolé, cherche des partenaires. Et c'est à ce moment-là qu'arrive au pouvoir Omar el-Béchir au Soudan, c'est en 89. C'est un fervent admirateur du régime islamique. Il est lui-même lancé dans un programme de réislamisation du Soudan. Et c'est à la faveur donc de ces intérêts convergents que les deux pays vont commencer à coopérer. Le Soudan devient d'ailleurs un des premiers pays où le corps des gardiens de la révolution et la force Al-Quds, qui est le corps expéditionnaire, si vous voulez, des gardiens de la révolution, établissent une de leurs premières antennes au Soudan. C'est dans les années 90, la relation est plutôt anecdotique. Ça n'empêche pas les deux pays d'être placés dans le fameux axe du mal du président Bush. Mais c'est vraiment à partir de 2005 qu'il y a une accélération de la coopération entre Téhéran et Khartoum.
Et un corps des gardiens de la révolution islamique qui implante au Soudan des bases, des usines de fabrication et de transport d'armes iraniennes dont on dit aujourd'hui que ces armes transitaient par le Soudan à destination du Hamas à Gaza et du Hezbollah au Liban. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Iran a à gagner de rester allié du Soudan? Par exemple, quand l'Iran demande au Soudan l'autorisation d'établir une base navale à Port-Soudan contrôlée par les forces armées soudanaises, pour l'instant, les forces armées soudanaises lui refusent cet accès. Donc jusqu'où peut aller cette alliance?
Alors, comme vous l'avez souligné, effectivement, les forces armées soudanaises et le général Al-Burhan ont établi leur capitale de facto à Port-Soudan, puisque les combats font rage. C'est la guerre civile au Soudan. Khartoum est disputé. Les localités autour de Khartoum aussi. Port-Soudan, c'est un peu la base arrière des forces soudanaises. Et l'Iran y a vu une opportunité d'établir une tête de pont, si vous voulez. Ça présente plusieurs avantages. D'abord, s'enraciner au Soudan et puis avoir accès aux 700 kilomètres de frontières maritimes avec la mer Rouge et se retrouver de facto de l'autre côté du détroit de Bab el-Mandeb. Vous avez tout à fait raison de préciser que pour le moment, les Soudanais ont refusé la proposition iranienne d'établir une base navale. Il faut dire que la loyauté des Soudanais est très versatile. Ils sont quand même encore sous pression de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et des États-Unis. N'empêche qu'encore une fois, les Iraniens font fi de ce genre d'interdiction et s'implantent petit à petit.
Et on n'est pas au Soudan dans un paradoxe près, puisque concernant le Soudan, il se trouve que les forces qui s'opposent à celles soutenues par l'Iran sont quant à elles, donc les forces de soutien rapide soutenues par Wagner, la milice russe, on en parlait vendredi dans Culture Monde, alors qu'Iran et Russie sont censées être de puissants alliés. Je trouve passionnant justement d'entendre par la voix de nos invités, de vous tous qui connaissez très très bien cette région, d'entendre combien de nuances il faut mettre dans l'analyse de ce qui est en train de se passer en ce moment dans la région. Peut-être un tout petit mot pour conclure, Pierre Palavy, parce qu'on n'a pas parlé de le rapprochement presque théologique qui peut exister entre les Soudanais et l'Iran. Là, on n'est pas dans un rapprochement dû à une proximité religieuse. Le Soudan est majoritairement sunnite.
Absolument. C'est un peu la même logique qui amène l'Iran chiite à travailler avec le Hamas sunnite. C'est présenté comme une tentative de rapprochement des frères ennemis de l'islam. En fait, on peut vraiment parler de réel politique et même de cynisme dans le cas iranien.
Merci beaucoup Pierre Palavy d'avoir été avec nous, professeur au Collège des Forces Armées Canadiennes. Vous étiez en direct de Toronto. Laurent Bonnefoy, vous avez écouté ce que disait Pierre Palavy. Surveiller le trafic maritime à destination et en provenance du canal de Suez, c'est l'ambition de l'Iran, et cela sert le fait que les Houthis soient si présent et si fort aujourd'hui sur une rive de la mer Rouge sert les intérêts iraniens. Est-ce que vous avez une idée de si les houthistes yéménites ont des liens aujourd'hui avec le Soudan, avec les Soudanais, avec ceux qui sont juste en face? Bon, c'est à quand même quelques dizaines et centaines de kilomètres, mais juste en face sur les rives de la mer Rouge.
Oui, il y avait eu en fait des accusations assez tôt en fait d'armement qui transitait par le Soudan. Donc comme il était expliqué, ça a effectivement été une plateforme, un carrefour important qui était négligé. Et je pense que c'était intéressant d'évoquer justement cette relation qui est contre nature si on s'en tient à la dimension religieuse, mais qui montre bien qu'il y a aussi une forme d'alliance, alors que eux décrivent comme étant l'axe de résistance avec une dimension anti-impérialiste dans leurs mots. Et parfois, ce genre d'alliance a une dimension un peu troublante quand on voit, y compris des mouvements d'extrême gauche, américains, britanniques, italiens, français moins, mais à glorifier en fait l'ensemble de ces démarches en faisant fi en fait de la violence interne que ça impose. Par ailleurs, concernant la relation, il y a eu de nombreux mercenaires soudanais en fait qui sont intervenus au Yémen et qui se sont probablement aguerris et qui jouent aujourd'hui un rôle important.
Au Yémen.
Au Soudan, dans le cadre de la Soudan.
D'accord.
Du Soudan, puisqu'ils sont retournés.
Ils sont retournés au Soudan. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Bonnefoy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste de la péninsule arabique, chargé de recherche au CNRS, au CERI et au Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa, le CEFAS. Votre dernier livre, c'est Le Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre, paru aux éditions Fayard. Je ne suis pas sûre que ce soit votre tout dernier livre, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est celui qui se rapproche le plus de nos thèmes d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et nous restons, Catherine, sur la guerre à Gaza avec l'offensive terrestre de l'armée israélienne sur Rafah qui est imminente.
Tout comme l'évacuation des civils vers des tentes blanches, bien alignées, comme le montrent des images satellites publiées par le Times of Israel, la BBC et le Guardian, des tentes dressées près de Khan Younes, à 5 km environ au nord de Rafah. Elles sont censées accueillir les déplacés palestiniens après une évacuation massive de Rafah. Israël a acheté 40 000 tentes pouvant accueillir chacune 10 à 12 personnes, indique le Wall Street Journal. L'offensive terrestre sur Rafah est donc imminente, inévitable. S'accorde à dire le quotidien israélien Haaretz et le journal palestinien Al-Ayam. Des combats au sol se préparent alors que les frappes meurtrières continuent, elles, ce matin dans le sud de la bande de Gaza. Le gouvernement israélien dit cibler 4 bataillons du Hamas regroupés à Rafah, après avoir détruit 18 à 19 autres bataillons sur les 24 dont disposent les islamistes, précise la BBC. Le journal palestinien Al-Ayam dénonce, lui, le nombre de civils palestiniens tués depuis le début de la guerre. Plus de 34 000 morts, selon le Hamas. La majorité sont des femmes et des enfants, selon Al-Ayam. Ce que confirme la chaîne qatari Al Jazeera, l'une des fenêtres du monde arabo-musulman sur la guerre à Gaza. L'un de ses journalistes journaliste s'est rendu dans l'hôpital spécialisé du Koweït à Rafah. The vast majority of casualties are among civilians now. This is the area where the majority of Gaza's population have been told to stay. La grande majorité des blessés soignés ici sont des civils, explique le journaliste d'Al Jazeera. C'est dans cette zone, à Rafah, que la majorité de la population gazaoui a été invitée à rester pour garantir sa propre sécurité. Mais nous pouvons observer des attaques israéliennes sur cette zone densément peuplée avant l'opération militaire prévue sur le terrain dans les prochains jours. Les Palestiniens n'ont plus d'endroit où aller, conclut Al Jazeera. L'offensive terrestre imminente sur Rafah suscite une vive opposition aussi des ONG et de la part d'alliés d'Israël comme les États-Unis, rappelle le Guardian. La Maison-Blanche a déjà alerté sur les pertes civiles qu'entraîneraient les combats dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne qui est passée de 250 000 habitants à plus d'un million en 6 mois de guerre. Une offensive terrestre perturberait également l'acheminement de l'aide humanitaire. Et le Guardian rappelle que l'Égypte refuse de voir les Gazaouis pousser de l'autre côté de la frontière, dans la péninsule du Sinaï, vers le territoire égyptien. Le Caire, qui a mis en garde Israël contre toute offensive terrestre sur Rafah, synonyme, selon l'Égypte, de nouveaux massacres de masse et de destruction généralisée, le Caire reçoit des chefs militaires israéliens et du renseignement intérieur, note le journal Haaretz, pour discuter des opérations à venir à Rafah et de la libération des otages aux mains des islamistes du Hamas depuis plus de 6 mois maintenant.
Les opérations de l'armée israélienne, de nouveau critiquées dans des campus universitaires avec des tentes dressées cette fois aux États-Unis.
Où la tension monte avec la police, non seulement sur la côte est, à Columbia, à New York, ou encore à Yale, dans le Connecticut, mais aussi dans le Midwest et dans le sud, au Texas, ou encore sur la côte ouest, en Californie, énumèrent le Washington Post et le New York Times. Pour le magazine américain The Atlantic, un journaliste s'est même rendu pendant 9 heures sur le campus de Columbia, à New York. Il y a vu des manifestants pro-palestiniens, keffiyés sur la tête ou autour du cou, constituer une zone libérée en dressant sans détente. Un campement qui a, selon ce journaliste, des allures d'intifada et de Woodstock, avec par exemple des tentes d'hindous pour l'intifada, à côté de clubs de danse, de musiciens et de poètes. De petits drapeaux palestiniens, brodés des noms des dirigeants palestiniens tués à Gaza, sont également plantés dans l'herbe, raconte The Atlantic, et les leaders de ce mouvement universitaire s'efforcent d'insister sur le fait que, malgré tous les chants, de la rivière à la mer et les promesses de revenir sur la création d'Israël en 1948, ils ne sont pas antisémites. Le journaliste de The Atlantic a pourtant entendu des étudiants de Columbia dénoncer l'intrusion de sionistes, en fait 3 autres étudiants juifs et pro-israéliens. Trop d'intimidation et de harcèlement pour la présidente de Columbia, Minouche Shafik, qui a conseillé, note The Hill, aux étudiants de suivre des cours en ligne, comme pendant la pandémie. Et le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, va plus loin. The virus of antisémitisme is spread across other campuses. Le virus de l'antisémitisme se propage à d'autres campus, regrette Mike Johnson dans une allocution hier, huée, vous l'entendez, depuis l'université new-yorkaise de Columbia, dont l'administration est accusée par le ténor républicain d'avoir laissé les menaces, la peur et l'intimidation d'une foule violente l'emporter. Mike Johnson n'exclut pas de demander au Congrès l'intervention de la garde nationale. Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, cite par le quotidien conservateur Makor Rishon, ces mouvements universitaires rappellent ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Ils doivent servir de canaries dans la mine de charbon. Mais pour Alissa Solomon, qui se présente dans les colonnes du Guardian comme professeure juive de l'université de Columbia, il faut bien sûr surveiller l'antisémitisme partout dans le monde. Il faut aussi se méfier, dit-elle, des accusations spécieuses d'antisémitisme endémique pour faire avancer un programme antilibéral, notamment aux États-Unis, comme nous l'avions déjà évoqué en décembre et janvier dernier, avec la polémique autour de la présidente d'Harvard de l'époque, Claudine Gay.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, vous retrouverez comme chaque vendredi Mélanie Chalandon et ses invités pour une table ronde d'actualité consacrée à l'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda, précédée d'un retour du Portugal avec le journaliste Michael Correa de Mediapart.